Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous montrez qu'il y a en France des gens qui innovent, qui créent, qui imaginent la société et les produits de demain. Direction la plage aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore équipé, on va vous aider avec un maillot anti-UV, un parasol made in France et un drap de bain tricolore. Elle existe depuis 1904 et le leader mondial d'hélices pour avions de transport, Ratier-Figeac, est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, un nouveau genre de digue en mer, c'est la solution pour protéger le littoral, c'est Wave Bumper. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez dès à présent la parole. Venez nous dire si vous faites attention aux produits que vous achetez, Anissa, quand vous allez à la plage.
Oui, dites-nous comment vous vous équipez pour vous, pour vos enfants. On pense aux jouets de plage aussi. Hein. Dites-nous
évidemment
si vous surveillez la provenance de ce que vous emmenez sur la plage. Hashtag Europe 1 pour témoigner, pour poser vos questions également aux invités de Raphaël Duchemin. Ça, c'est sur Twitter. Et puis, on vous écoute. Vous pouvez nous appeler 39-21. C'est le standard, 50 centimes la minute.
Et vous allez voir qu'en regardant de près, on peut effectivement s'équiper pour être en made in France. Nos invités vont vous le montrer. À mes côtés, pour les accueillir, comme chaque jour, elle est là. C'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, c'est Catherine Testa, fondatrice de l'optimisme.com et du club des Chief Happiness Officer. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Un des indispensables quand on part à la plage, c'est le parasol. Bonjour Claudia Kelsina.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Il est avec nous, votre parasol, dans le studio d'Europe 1.
Superbe.
C'est magnifique et ça nous fait une très belle lumière d'ailleurs. Vous pouvez le regarder sur europe1.fr. Vous êtes la fondatrice de Klaos, K-L-A-2-O-S. Klaos que vous avez créé en 2017. Et alors c'est en suivant votre conjoint du côté de Bordeaux que vous avez décidé de quitter votre travail et de vous reconvertir. Bordeaux du coup, c'est près de la mer. Et ça vous a inspiré?
Eh oui, en fait, j'ai quitté Paris en 2015. Et en fait, j'ai eu envie de me reconvertir parce qu'auparavant, je travaillais donc dans la filière de l'agriculture auprès du ministère de l'Agriculture. J'avais des enfants en bas âge et j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que bon, j'allais beaucoup à la plage parce que Bordeaux, c'est pas loin de la côte. Et je me suis rendu compte là que tous les parasols n'étaient pas de très bonne qualité. Ce que je trouvais sur les marchés ne me convenait pas. C'était pas très joli en plus, hein, il faut le dire. Voilà. Et donc, j'ai décidé de créer le parasol qui allait me convenir.
Et puis surtout, quand vous regardez d'un peu plus près ces fameux parasols qu'on trouve sur le marché, vous vous dites, non seulement ils ne me plaisent pas, mais quand on retourne l'étiquette, c'est pas forcément très made in France. Donc, vous essayez de faire un produit un peu différent, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une empreinte carbone un peu réduite aussi.
Et oui, en effet, je me suis rendu compte, bon, la plupart des parasols aujourd'hui sur le marché, surtout les parasols de plage, viennent de Chine, qui est le plus grand exportateur mondial. Et malheureusement, pour la plupart, ils ont une qualité qui est vraiment médiocre. Ce sont des parasols qui se cassent vite, qui ne filtrent pas très bien les UV. Et donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, non seulement d'un point de vue du look, du design, qui est certes important, mais aussi d'un point de vue filière et production.
Alors, vous commencez à chercher les produits pour fabriquer votre parasol. Le tissu, vous le trouvez, mais en Allemagne, pourquoi ? On n'a pas de tissu suffisamment robuste, qui soit recyclé, qui vous convienne à l'époque ?
Alors, en fait, donc mon objectif, c'était de vraiment faire une production la plus proche possible. Il faut savoir que, bon, il faut aller chercher les savoir-faire là où ils sont.
Bien sûr.
Et j'ai eu énormément d'échantillons de tissus qui venaient un petit peu de toute l'Europe. Alors, je me suis vraiment cantonnée à l'Europe. Pour le coup, c'était vraiment un choix. Et puis, finalement, bon, mon choix s'est porté sur l'Allemagne parce que c'est là que j'ai trouvé les tissus qui étaient à la fois techniques et qui répondaient à mes exigences.
Tissus recyclés.
Et voilà, oui, effectivement, sur nos parasols de plage, tous les tissus sont recyclés des bouteilles plastiques pour 2/3 de moins de consommation de CO2 sur ce poste, ce qui est plutôt aujourd'hui... un motif de
satisfaction,
oui,
bien sûr. L'impression, en revanche, elle est faite en France.
Hein, l'impression est faite en France.
Et
oui,
je précise que c'est vous qui avez imaginé en fait les coloris, ce qu'on peut voir, hein, cette espèce de dégradé de couleurs. Ça, c'est quelque chose que vous avez déposé.
Oui, Effectivement, c'est moi qui crée les collections. Je fais le design. Et donc, en fait, ces collections, elles changent d'une année sur l'autre. Petit à petit, hein, on ne veut pas non plus faire de la fast fashion et tout cramer d'une année sur l'autre. L'idée, c'est plutôt de renouveler petit à petit aussi les collections. Et donc, voilà, ces modèles sont déposés, évidemment. Ensuite, effectivement, donc les impressions sont faites sur la base de ces modèles-là et les impressions sont faites en France. Ce sont des impressions qui sont écologiques. On s'adresse uniquement à des imprimeurs qui sont labellisés Imprime Vert. Donc, voilà, parce qu'il faut savoir aussi que l'impression textile a un impact très, très fort sur l'environnement et donc on essaye de le limiter également.
Elisabeth, le parasol, c'est un des produits stars de l'été.
Oui, un des produits stars de l'été. Il s'en vend des milliers chaque année, rien qu'en France. Alors, vous l'avez dit, les plus gros producteurs sont chinois, pas toujours de bonne qualité, mais il y a des Français qui ont réussi à s'imposer avec des produits de plus grande qualité parce que chaque année, les Français achètent plus de 300 000 parasols. Parmi les fabrications françaises, un parasol sur quatre est made in France. Il y en a beaucoup qui sont fabriqués près de Saumur, que vous connaissez peut-être, pour la marque jardin-privé.com. C'est le groupe NP Création qui les fabrique à Alonne, près de Saumur, surtout pour la grande distribution.
Oui, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose aussi dans ce monde du parasol. Est-ce que fabriquer un parasol en Europe, et plus particulièrement en France, c'est quelque chose qui coûte forcément un peu plus cher, Claudia?
Ah oui, certainement. Il faut savoir que quand on parle de production française ou européenne, souvent, par exemple, les structures viennent quand même de Chine.
Oui, c'est l'assemblage n'est pas 100% français. La structure métallique est chinoise.
Là, la fabrication, elle est italienne.
Oui. La structure est italienne, l'assemblage aussi. On a été vraiment chercher le savoir-faire là où il était. Voilà, exactement.
Que dit notre coach, Catherine ?
Alors, se lancer dans une aventure entrepreneuriale telle, c'est quand même géant, c'est super. Vous parliez tout à l'heure des tissus qui laissent passer des UV. Comment est-ce qu'on sait qu'un parasol est vraiment anti-UV ? Est-ce qu'il y a une norme, une réglementation là-dessus ? Moi, je ne savais pas qu'un parasol pouvait laisser passer les UV.
Alors, il y a des instituts qui font de la certification sur le tissu une fois qu'il est imprimé.
D'accord.
Et donc, en fait, on peut savoir si ce tissu laisse passer plus ou moins les rayons. Alors, il ne faut pas confondre les rayons UV oui. avec les rayons lumineux.
Okay.
Donc, même que le parasol soit clair ou foncé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il filtre mieux ou moins bien les UV. Seulement, c'est une question de chaîne et de trame du tissu qui font qu'en fait, laisse passer plus ou moins les UV. Et d'ailleurs, moi qui étais sur une trajectoire un peu écologique, je me suis posé la question, par exemple, du coton bio. Sauf que le coton filtre moins bien les UV.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On a fait une émission récemment avec des produits aussi pour la protection du soleil. Et Soway, qui fabrique des chapeaux, qui est une entreprise française, justement pour protéger nos têtes et celles de nos enfants, expliquait que ça fonctionne finalement exactement sur le même principe qu'une crème solaire. Suivant le vêtement qu'on porte, la protection est différente et il faut, sur sa tête, donc sur un parasol comme sur un chapeau, mettre l'équivalent d'un 50. Donc je suppose que c'est ce que vous avez fait.
Oui, voilà, tous nos parasols, et on fait aussi des parasols de terrasse et des ombrelles de poussette, ils sont tous certifiés 50+, UPF. Donc c'est le maximum de la protection qu'on peut avoir.
En 2018, vous avez produit 500 parasols. Là, on est en 2019. Vous aviez lancé pour démarrer une campagne de crowdfunding. 2019, c'est l'année de la croissance pour vous ?
Ah oui, absolument. Effectivement, on a surtout commencé à s'étendre au niveau des revendeurs. L'année dernière, on avait 12 points de vente. Cette année, on en a plus de 50. Donc, on a fait une belle croissance là-dessus. Et on essaye de se faire connaître du grand public pour essayer d'expliquer qu'on a un produit vraiment de qualité qui va durer plusieurs années. On mise un petit peu sur la haute couture du parasol. On a vraiment quelque chose qui est bien fait, bien fini, dont les baleines ne se cassent pas et donc qui va durer.
Elisabeth,
est-ce que vous avez envisagé de le proposer à des plages privées ?
Alors non, pas pour l'instant.
Parce que ça peut être un moyen de faire, entre guillemets, un bon business.
Non, pas pour l'instant, effectivement. C'est plutôt un produit qui s'adresse aux particuliers. C'est des choses qui peuvent venir. Mais c'est vrai que moi, dans ma culture personnelle, venant de Sardaigne, qui est une île qui est plutôt fréquentée par les touristes. Mmh. J'aime beaucoup l'idée de la plage libre et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir m'amener mon parasol, le planter où je veux et repartir avec.
Donc ça va au-delà de l'entrepreneuriat, ça a aussi du
c'est
sens.
C'est aussi des engagements, oui, personnels, effectivement.
Vous êtes seule avec une salariée pour l'instant ? Vous oui. aimeriez pouvoir vous développer et embaucher ?
Absolument, oui, oui, effectivement. Alors, notre effectif fluctue en fonction de la saison, parce qu'il faut savoir qu'on est sur une activité qui est très saisonnière. Aujourd'hui, effectivement, j'ai une salariée, une alternante commerciale, et donc j'espère que petit à petit, on va étoffer l'équipe.
On reste à la plage aujourd'hui sur Europe 1 et on se retrouve dans un instant.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si on s'allongeait sur le sable, mais pas sur n'importe quel drap de bain, vous allez découvrir ceux de Obaba. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Nous découvrons eh bien, tous ces Français qui s'engagent, qui innovent aujourd'hui. Ça sent déjà bon les vacances, on a les tongs aux pieds, on va à la plage et on découvre effectivement ces Français qui innovent et qui réinventent nos produits de plage made in France.
La serviette de plage, c'est tout un débat. Petite, trop grande, qui ne sèche pas assez vite, qui se gorge d'eau, bref. Il y en a toutes sortes sur le marché, mais des serviettes françaises, vous allez voir que ça existe et qui nous rendent pas mal de services. Bonjour Philippe Dupré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs de Obaba qui existe déjà depuis 2012. Je crois que vous aussi, hein, un peu comme Claudia, vous aviez envie de changer de vie. Vous étiez directeur financier dans un groupe alimentaire et en 98, le passionné de voyage que vous êtes se dit « si on crée un drap de bain original ».
Exactement, c'est ça. Après une belle vie, une carrière dans des grands groupes, on s'est dit pourquoi on ne va pas se lancer et créer un concept. L'idée était venue d'elle-même, de se dire que quand on voyage et quand on est sur la plage, on a envie d'avoir un accessoire qui nous permet d'être serein, tranquille.
C'est quoi original, un drap de bain original dans votre tête à ce moment-là ?
Un drap de bain original, c'est surtout, la vraie idée était un drap de plage, je veux dire, peut-être pratique. C'est-à-dire un drap de plage qui va vraiment nous servir. Un concept qui va permettre de dire ben, je veux avoir plus de convivialité, je veux partager la plage avec les amis, avec la famille. Et aujourd'hui, quand j'étais allongé sur la plage et que je profitais du soleil, je n'avais pas l'accessoire indispensable qu'il me fallait.
Alors, ça met du temps quand même entre l'idée et la réalisation finalement du projet, puisque vous démarrez véritablement en 2012. Quand vous partez en Espagne, hein, c'est ça, c'est là que vous lancez véritablement la première collection.
Exactement, c'est ça. En fait, il y a eu comme un déclic, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on travaille sur le concept, il y a beaucoup de choses à faire, on est indépendant, on se dit, voilà, il faut penser à tout et bien se préparer pour lancer un beau produit, un produit de qualité, un produit qui soit fonctionnel. Et d'un seul coup, hop, l'arrivée en Espagne, le soleil, la mer, et tout s'illumine, tout est un déclic et tout se met en place. Et là, on se met à 24 heures sur 24 pour sortir un beau produit.
Alors, il est avec nous, évidemment, ce drap de bain sous le parasol. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Déjà, bravo, parce qu'il est 100% made in France, c'est-à-dire il est tissé dans les Vosges, il est imprimé dans le Lyonnais et il est confectionné dans les Hauts-de-France.
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que la grosse particularité du Obaba et de ce concept, c'est que vous retrouvez un drap de plage qui est très grand quand vous le dépliez, mais qui est compact, léger et qui sèche très rapidement.
Alors, quand il est fermé, il ressemble à ça, pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, et pour ceux qui ne nous voient pas, c'est finalement une petite serviette roulée, hein, on la tient dans la main, c'est très léger.
Oui, c'est ça, le plus grand modèle ne fait pas plus grand qu'un avant-bras, quelque part, mais quand vous le dépliez, on peut y mettre 4 à 5 personnes dessus. Et la grande particularité, c'est là où on a cherché un tissage très spécifique, c'est qu'on a un tissage qui est très très fin, qui est très résistant, et d'une très très bonne qualité, qui permet de ne pas se déchirer. Et ce tissage qui est très très fin, sa grosse particularité, c'est qu'en fait, il ne retient pas le sable et il sèche très rapidement. Et quand vous avez un produit qui est très léger, le souci, c'est qu'il s'envole. Donc, l'idée du Obaba, tout simplement, c'est d'y appliquer des boutonnières et des piquets à chaque extrémité dans lequel vous le fixez, vous le plantez sur le sable et il ne bouge plus.
Ce qui est très étonnant, c'est que quand on le touche, ce tissu, on a l'impression d'avoir l'équivalent d'un paréo.
Oui, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment je suis contre la serviette éponge qui retient le sable, qui retient l'humidité, qui prend toute la place dans les bagages. C'est pas l'accessoire idéal.
Mais est-ce qu'on s'essuie avec ça? Parce qu'il a l'air très fin quand même.
Alors, on peut s'essuyer. En fait, il éponge énormément. C'est du 100% coton d'extrême qualité. C'est-à-dire que quand vous allez vous allonger dessus, toutes les petites gouttes vont partir.
D'accord.
Et donc, ça va vous, quelque part, ça va vous éponger, ça va absorber. Vous pouvez l'utiliser et vous éponger avec. Mais ce n'a pas le système
mais
de...
C'est moins, ça a l'air moins enveloppant qu'une serviette bien épaisse.
Bien sûr. Ça n'a pas du tout le même effet. Mais aujourd'hui, il y a deux choses. Le consommateur d'aujourd'hui, le client qui va à la plage, il va confondre entre, quelque part, se protéger du sable et s'éponger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une serviette éponge de 2 mètres carrés pour s'éponger à la plage. On s'éponge légèrement. Par contre, pour se protéger du sable, de plus en plus, oui, on veut une grande taille.
Catherine,
vous faites énormément de collaborations. J'ai vu sur votre site web, notamment une avec Saint-James. Comment vous choisissez ces collaborations?
Elle est là, d'ailleurs. Regardez.
Oui, elle est là, la collaboration avec Saint-James. Alors,
Très chic.
Les collaborations, on les choisit. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'elles viennent parfois à nous. Une collaboration, c'est toujours une très belle rencontre. Et on a fait une collaboration avec Saint-James, c'est la troisième année qu'on
Il
l'a fait aujourd'hui.
Il sera là demain, Luc Le Sénégal, d'ailleurs.
Avec Luc, voilà, donc ça fait 3 ans. Mais on a pu faire aussi avec Darko, qui est un graffeur berlinois. On fait aussi des collaborations avec des hôtels ou des marques. Donc, on essaye d'avoir un panel très large, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le tapis ou le bain ou la serviette de plage répond à une demande de tout le monde.
Vous avez développé 4 modèles.
Oui.
Vous avez évité les imprimés. C'est aussi une de vos marques de fabrique, hein, si j'ose dire, parce que vous dites, finalement, il faut que ce soit quelque chose dont on ne se lasse pas, qui soit indémodable.
Exactement. C'est le premier côté éco-responsable de la société Obaba. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que quand on achète un accessoire de plage, il soit indémodable. Pourquoi ? Parce que si vous faites un bel imprimé à la mode, que ce soit un imprimé panthère ou un imprimé ananas, l'année prochaine, vous flashez sur le produit, l'année suivante, il est au fond du placard. Et c'est un gaspillage énorme. Et l'écologie et l'éco-responsabilité passent d'abord par conserver ces produits. C'est pour ça qu'on fait un produit de qualité pour qu'il dure dans le temps.
Justement, vous parlez d'éco-responsabilité. Vous en êtes déjà à l'étape suivante, hein, c'est-à-dire à ce drap de bain un peu plus éco-responsable. C'est quelque chose que vous êtes en train de mûrir pour la saison prochaine ?
Oui, on travaille. Alors, peut-être même pour la saison encore d'après, parce qu'on est déjà, on est déjà en fabrication sur la saison prochaine. Mais pour la saison d'après, oui, on travaille sur des matières encore peut-être plus bio ou peut-être sur des emballages plus recyclables, ou etc. Et c'est vrai qu'on travaille. Ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on essaye de faire du zéro déchet chez Obaba. Donc, quand on a des chutes de tissu, on en fait des sacs. Quand on a des Obaba qui sont un peu abîmés, on les offre, on les donne, mais on ne jette rien. Et ça, c'est la première particularité, c'est qu'il ne faut rien jeter, ou le minimum.
Combien de personnes travaillent avec vous ?
Alors, on est 2 associés.
Oui.
Mon associé continue à travailler de son côté. Il va bientôt me rejoindre pour faire grandir la société. Moi, je travaille à plein temps. Et on a une personne qui expédie et fait tout le suivi client, surtout web. Et on a une agence de communication web.
Et la confection, forcément, c'était une évidence, parce que je crois que vos parents sont de la partie.
Exactement, mes parents étaient confectionneurs. Et en fait, le produit est né aussi d'une idée familiale, amicale. Et ça, on en ressort un beau bébé, comme on peut dire, un beau produit.
Elisabeth, dans la valise Made in France, qu'est-ce que vous avez mis d'autre ?
Alors, j'ai sélectionné pour un chapeau de la maison Chapeau Léon. C'est une marque française qui a été créée en 2014, qui propose des chapeaux 100% français, indéformables, qui sont conçus en Haute-Garonne. Vous avez aussi une tente de plage de la marque Miasson, créée par 2 anéciennes. Elle est anti-UV, un tissu labellisé par l'Institut français du textile et de l'habillement. Je vous ai sélectionné une autre serviette de plage de la marque française Elle Saint-Aunois. Et pourquoi pas un short de bain par nos amis du style français ou un maillot de bain pour nous les femmes de la marque Calipige, créée en 2015 par 2 sœurs originaires de la Martinique. Leur maillot de bain s'adapte à toutes les morphologies féminines.
Eh bien justement, le maillot de bain, j'en ai un pour vous.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Eh oui, pas de plongeon dans la grande bleue sans maillot, mais celui qui arrive, vous allez voir, est particulier, car il peut aussi vous protéger. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et on prépare les vacances avec Raphaël Duchemin et ses invités. On part à la plage aujourd'hui avec uniquement dans nos valises des produits made in France. Alors, on a le parasol. on a le drap de plage, il nous manque le maillot, Raphaël.
Évidemment, quand on va à la plage, c'est indispensable. Mais ceux qui arrivent, vous allez voir, ont quelque chose de très particulier, car non seulement ils nous permettent de nous baigner, mais ils nous protègent aussi des UV. Bonjour Virginie Fleuriel.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Votre marque a été créée en 2017 et elle porte votre nom. C'est une histoire personnelle qui vous a poussé à créer ces maillots. Parce que vous avez vous-même développé 3 mélanomes.
Mmh, exactement.
Et votre mère est décédée aussi il y a 5 ans à la suite d'un mélanome. C'est ça qui vous a donné envie de faire quelque chose de particulier.
Exactement. En fait, il fallait vraiment que je trouve des solutions pour me protéger la peau. Ça a été une période un petit peu difficile quand même dans ma vie. Et voilà, enfin, j'avais envie que tout ce négatif se transforme en positif. Et voilà, je me suis dit, il faut trouver des solutions. Et quand on aime les voyages et qu'on aime se baigner, forcément, les maillots de bain, il fallait se protéger donc des UVA et des UVB.
D'autant que c'est sur une plage que vous avez eu l'idée de ces maillots, parce que vous êtes justement avec un maillot de bain censé vous protéger. Vous dites, c'est pas forcément très joli, très esthétique. Et ce sont vos enfants qui vous disent, mais vas-y maman, lance-toi.
Tout à fait. En fait, j'étais sur une plage au Mexique, à Playa del Carmen, exactement. Ouais. Et j'avais mon maillot de bain, un t-shirt dessus, anti-UV. Enfin, voilà, c'était pas très. C'était anti-UV,
mais c'était pas très. Toute la
panoplie. Ouais, la panoplie qui fait pas très glamour quand on a 35 ans. Donc, voilà. Et puis, je commençais à me dire, bon, faut peut-être trouver une solution. Et puis, je dis, mais oui, hein, je vais créer des maillots de bain anti-UV. C'est moi qui vais les créer. Je vais les dessiner. Voilà, j'aurai vraiment des modèles et aussi, je pense que d'autres femmes seront aussi concernées par ce même problème. Et mes enfants m'ont dit, mais oui maman, c'est génial. Et donc, dans l'avion, je commençais à créer donc les premiers croquis.
Dans l'avion
croquis.
Retour.
Voilà.
Alors, vous avez commencé à dessiner, vous avez fait quand même 11 mois de recherche pour trouver notamment les bons tissus, on en parlait tout à l'heure.
Exactement.
Des tissus qui ne laissent rien passer, qui sont le fameux équivalent de ces 50, la crème 50.
Exactement, un UPF 50+. En fait, j'ai vraiment voulu m'orienter tout de suite vers le Made in France, parce que en effet, il y a eu des fournisseurs étrangers qui m'ont dit, ah bah oui, moi j'ai des tissus. Alors, en fait, ça ne m'a pas du tout intéressée. J'ai vraiment voulu me concentrer sur la France. Donc, tous les tissus sont sourcés en Ardèche. Et après, tout ce qui est accessoires, c'est Normandie, la fabrication, c'est un atelier parisien. Et en fait, c'est le tissage qui ne laisse pas passer les UV.
Parce qu'il est extrêmement serré.
Exactement. Il n'y a pas du tout de chimie, parce que voilà, c'est pareil, la chimie, au fur et à mesure des lavages, forcément, ça disparaît. Donc en fait, le but, c'est vraiment de garder dans le temps un maillot de bain qui dure et qui surtout qui protège.
Alors, vous les avez amenés avec vous et ils sont ici, dans le studio d'Europe 1, ces maillots de bain. On a différents modèles. On en a pour la femme adulte, on en a pour les enfants, on en a pour les adolescents, les adolescentes. Vous avez vraiment eu à cœur de couvrir toute la famille.
Alors, j'ai commencé en effet par la femme, voilà. J'ai commencé par la femme l'année dernière, parce que quand je faisais mes recherches, je ne trouvais absolument rien, et surtout rien de Made in France. Donc voilà, j'avais envie vraiment d'acheter plutôt du Made in France. Donc j'ai commencé vraiment à me orienter vers la femme. Après, j'ai fait en effet, suite aux demandes, parce que j'écoute énormément mes clientes, comme le kimono que j'ai créé cette année, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui veulent garder leurs deux pièces. Et ben, le kimono, il permet justement d'être protégé, mais de garder son deux pièces. Et aussi, donc, tout ce qui est petite fille et tout ce qui est adolescente.
Catherine ?
Vous faites des ventes dans la réalité, c'est-à-dire on vous trouve chez qui aujourd'hui ? J'ai cru voir que vous faisiez des ventes dans des pharmacies, des ventes éphémères dans des pharmacies. On commence à vous appeler pour ça ?
Alors, en fait, j'ai commencé. C'est vrai que moi, c'est vraiment sur mon site e-commerce. Donc sur Virginie Fleuriel. Après, en effet, j'ai eu quelques pharmacies qui m'ont proposé de faire des ventes éphémères. Après, c'est vrai que j'ai remarqué quand même qu'au niveau de la France, ça commence à arriver, la protection. Mais c'est pas... j'ai rencontré, c'est très intéressant d'aller aux rencontres de son public, parce qu'en fait, on voit des personnes, une femme qui m'a dit « Mais moi, c'est normal d'être rouge, d'attraper des coups de soleil. »
Ça veut dire qu'on a pris de mauvais réflexes.
Oui, tout à fait.
Il y a eu dans les années 80, 90, c'est vrai qu'on avait tendance à s'allonger, à se mettre une fois de la crème et puis à pas se poser de questions ou à mettre un indice assez léger, un 15.
Trop faible, voire du Monoï et j'en passe. Et c'est vrai que même nous, nos parents nous protégeaient peu ou mal. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment rentré dans les mœurs. Maintenant, ça commence à venir. Mais on rencontre en effet encore des personnes qui pensent que les UVA, les UVB, c'est très bon pour la santé. Alors oui, le soleil, c'est bon pour le moral, mais bonjour les dégâts pour la peau. Et voilà, c'est pas encore... ça vient petit à petit. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Votre site est lancé depuis mai 2018. Vous en avez vendu combien des maillots aujourd'hui?
On va dire un peu plus d'une centaine.
Un peu plus d'une centaine. Donc ça démarre?
Ça démarre. Voilà, mais assez optimiste parce que j'ai même des personnes, des clientes de l'année qui me recommandent cette année parce qu'il y a un nouveau modèle. Des personnes qui découvrent aussi ma marque, par exemple, dans la presse et on a l'impression que limite je suis une sauveuse alors que pas du tout, mais qui en fait je réponds à un besoin très précis. Voilà, justement de couvrir et de protéger parce qu'en effet il y a le cancer de la peau, mais il y a aussi le vitiligo. Il y a plein d'autres maladies où on a la peau très sensible. Il y a des personnes qui sont intolérantes à la crème solaire, donc il faut aussi trouver des solutions.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé aussi des maillots ou des accessoires de bain qui sont fabriqués avec des matériaux un peu particuliers.
Oui, par exemple, une entreprise d'Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques vient de lancer des maillots fabriqués à partir d'anciens filets de pêche. Ces filets, qui constituent une matière première, sont transformés en fil et récupérés auprès de pêcheurs espagnols. Ou encore, vous avez des combinaisons de surf. C'est la marque Picture qui utilise un mélange de calcaire et de pneus recyclés et non plus du néoprène tel qu'on les connaît aujourd'hui.
On reste ensemble sur Europe 1, toujours à la plage, dans la France qui bouge.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez poser vos questions à nos invités. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec un petit air de vacances aujourd'hui. Si vous nous suivez sur europe1.fr, eh bien vous avez l'impression qu'on est à la plage. Eh bien c'est un peu ça, il y a le parasol d'ouvert ici dans le studio, des maillots de bain anti-UV made in France et puis des grands draps de bain sur lesquels on va pouvoir pique-niquer sur la plage. C'est le programme aujourd'hui de tous ces produits made in France que vous allez emmener à la plage avec vous.
Avec nos invités, Virginie Fleuriel, fondatrice de Virginie Fleuriel, maillot de bain anti-UV 100% made in France, Claudia Calcina, fondatrice de Klaus, les parasols design et éco-responsables, et puis Philippe Dupré, co-fondateur de Obaba, l'unique drap de plage, s'il vous plaît, et de pique-nique double XL, fabriqué en France, qui ne s'envole pas. On est toujours avec Catherine Testa, qui est notre coach aujourd'hui, et avec Elisabeth Assayag. Je crois qu'on a déjà quelques messages, Anissa.
Oui, alors on a Catalan sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Live for life parasol ». C'est du high-tech et c'est du 100% made in France. Voilà, c'est une nouvelle marque que nous transmet Catalan. Voilà, des marques françaises de parasols. Et puis on a Marc, fidèle de l'émission, qui avec le hashtag Europe 1 vous pose une question à tous les trois. Tous vos produits sont vraiment très intéressants, mais leurs prix sont plutôt réservés à une clientèle haut de gamme. Est-ce que vos prix pourraient un jour baisser?
Ah, alors, qui a envie de répondre? C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé des prix, Philippe. La serviette monoplace, on va dire, elle démarre à 49 €, c'est ça?
Elle est à 40 €, le modèle pour couple est à 50, le modèle famille à 60. Et après, on a le modèle big, qui est le plus grand modèle et le dernier. Pour 6 personnes et pour les groupes et les tribus, voilà, qui est à 89 €.
Oui, alors ça, c'est simplement fait par vous, hein, ce modèle-là, il n'y en a pas d'autres.
Non, il n'y en a pas d'autres. Mais le modèle, déjà, le modèle du drap de plage qui se plante, n'existe pas. Donc c'est déjà,
on n'est plus obligé de chercher des pierres sur la plage, ou
des
coquillages
pour bloquer. Ou mettre sa chaussure, ou etc. Soyons voilà, un petit peu classe à la plage.
Côté prix, justement, alors, Virginie Fleuriel, les maillots.
Pour le coup, le Made in France coûte quand même cher.
On est autour de
145 € à peu près, premier prix. Il faut savoir que c'est quand même un produit technique. Et que surtout, un maillot de bain, une pièce dans des marques, on est plus quand même sur du 80-100 €. Donc, mes prix ne sont pas non plus délirants. Honnêtement, j'ai essayé. Alors oui, j'espère que par la suite, baisser un peu les prix.
Ça veut dire qu'il faudra passer à un stade un peu plus industriel pour la confection.
Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même dans un atelier parisien fait par des couturières. Voilà, donc aussi, il y a toute cette technicité qu'il n'y a pas chez un industriel. Enfin, c'est différent, c'est un mode de travail différent. Aujourd'hui, c'est vrai que je privilégiais ça. Maintenant, peut-être à l'avenir, je changerai et j'adopterai en effet peut-être... notre type de fabrication.
Claudia, c'est pareil pour vous, hein, le parasol Klaus, il a un coût.
Il a un coût, oui, effectivement, parce qu'il intègre beaucoup de choses. Il intègre une fabrication qui est de qualité, il intègre un certain procédé d'impression, il intègre des textiles qui sont techniques. Et aujourd'hui, effectivement, comme on s'approvisionne uniquement entre Allemagne, France et Italie, ce sont des coûts qu'on a vraiment du mal à faire descendre. Oui, effectivement, il faudrait faire des économies d'échelle demain.
Mais ça passe par une production plus importante.
Oui, et
c'est pas automatique.
Oui,
c'est pas automatique parce qu'on travaille déjà avec des partenaires qui nous aident aussi en faisant des prix pour nous lancer et faire des petites séries parce que nos partenaires qui sont les fournisseurs vivent aussi avec nous et donc on est déjà sur des bons prix et en faisant des quantités énormes, on gagne pas énormément.
Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses ? En fait, c'est le coût de la main d'œuvre aussi qui est un peu plus important, mais qui permet de payer les gens dignement.
Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut peut-être faire changer les choses, c'est aussi c'est que tout n'est pas gratuit et qu'aujourd'hui, quand on a des produits de qualité, comme on peut présenter aujourd'hui, c'est du produit
durable.
C'est des produits qui durent. Et aujourd'hui, on peut acheter un drap de plage à 10 euros. Il va faire une saison ou un parasol qui va faire même une semaine. Mais non, investissons dans les produits qui durent. Et là, en définitive, quand vous réduisez par le nombre d'années que vous avez utilisé votre accessoire, que ce soit un maillot de bain, un parasol, et en fait, c'est plus rentable. Donc c'est accessible à tout le monde. C'est l'investissement, tout simplement.
Je suis d'accord. En fait, c'est aussi une question de culture de la consommation aujourd'hui qu'il faut un petit peu remettre en discussion. Parce que, effectivement, on achète un produit qui a du sens, un produit qui a moins d'impact sur l'environnement, sur les droits du travailleur. Et c'est un produit qui est entier.
Les gens sont prêts à le faire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les différentes enquêtes d'opinion. Après, il faut que ça reste effectivement à portée de bourse quand vient le moment de l'achat. Catherine ?
Ce qui est très intéressant, c'est que vous parliez tout à l'heure de la broderie. Vous faites visiter sur votre site internet là où sont fabriqués vos produits aujourd'hui.
Voilà, en fait, j'essaye de rester le plus transparente pour montrer comment est fabriqué le produit. C'est des matières aussi très éco-responsables. Donc, j'essaye de faire au niveau un maximum au niveau de toute la traçabilité du produit.
La suite, c'est quoi pour les uns et les autres, Claudia, peut-être ?
Alors oui, nous, effectivement, à part le soleil, on va peut-être s'occuper de la pluie.
Oui,
voilà.
Vous avez remarqué qu'on a ouvert le parasol, vous seriez venu avec un parapluie. J'avais déjà des réservations.
Porte-malheur.
En tout cas, c'est l'objectif de l'entreprise, c'est de développer une gamme de parapluies à l'automne prochain.
Oui, et vous avez déjà les ombrelles pour les poussettes, parce que c'est important aussi de protéger les enfants.
On a fait aussi effectivement des ombrelles de poussettes qui filtrent très très bien les UV, qui ont en plus un tissu qui est anti-éblouissement pour les yeux sensibles du bébé, et qui ont des motifs qui sont poétiques, jolis, qui rentrent plus dans l'univers enfantin. Et on a aussi des parasols de terrasse.
Philippe, on a parlé du projet plus éco-responsable. Il y en a d'autres en cours ?
Oui, on travaille sur un projet. Là, on est déjà sur 2021, parce qu'il faut laisser le temps pour mettre ça en place. Et on est toujours sur un produit d'extérieur, toujours aussi pratique, toujours convivial et pour la famille. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui.
Je reviendrai vous voir
avec grand plaisir.
Avec plaisir. Virginie, on a des maillots pour les enfants, pour les adolescentes, pour les femmes.
Des kimonos. Voilà.
Des kimonos. Vous avez pensé à ces messieurs ?
Aux hommes, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de demandes pour les hommes et puis les petits garçons aussi. Donc voilà, donc peut-être, comme j'avais fait un duo mère-fille cette année, peut-être un duo papa-petit garçon, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Et puis en effet, toujours développer aussi la gamme femme, parce que de nouvelles couleurs, etc. Enfin pour moi, c'est important de diversifier un maximum pour que la personne puisse trouver son bonheur.
Merci à tous les trois d'être venus nous emmener à la plage aujourd'hui et vous nous donner évidemment des nouvelles. On adore en fait savoir ce que les gens deviennent une fois qu'ils sont passés dans l'émission et savoir quels sont les nouveaux produits, s'ils ont éclos ou non. Vous reviendrez évidemment nous en parler. Merci.
Merci.
Merci, au revoir.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va s'intéresser à une entreprise qui existe depuis 1904. Elle fabrique des hélices pour les avions de transport. C'est Ratier-Figeac. À tout de suite.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps maintenant à 13h41 de découvrir l'entreprise qui va bien. Merci, elle a plus de 100 ans aujourd'hui cette entreprise.
Oui, cette entreprise, elle est, figurez-vous, mondialement connue et c'est chez nous qu'elle est implantée. Si vous vous demandez où, c'est assez simple puisque son nom répond à la question, c'est Ratier-Figeac. Bonjour Jean-François Chanu.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui le leader dans le domaine des hélices pour les avions de transport. Vous allez évidemment nous dire comment vous arrivez dans cette aventure, mais avant, je voudrais qu'on remonte à 1904, effectivement, quand Paul Ratier crée la société. On est quand même, à Figeac, au fin fond du Cantal.
Effectivement, Paulin Ratier est né à Montmurat dans le Cantal, à quelques kilomètres de Figeac. Mais c'est à Paris en fait qu'il monte en 1904. Il s'établit en tant qu'ébéniste. Il commence à faire des boîtiers pour le téléphone. C'est le début du téléphone.
Donc rien à voir pour l'instant, en
au
tout
début,
cas avec
le bois.
Les hélices.
Et puis quelques années plus tard, vers 1908-1910, il prend le virus de l'aviation qui commence. Et il commence à fabriquer des hélices qui sont en bois. Il connaît très bien le bois, il s'associe à un ingénieur et il commence à les fabriquer.
Il connaît le bois et surtout il sait où le trouver.
Il sait exactement
ça, c'est
où
important.
Trouver du bon bois, du noyer, du hêtre, etc. Dans sa forêt natale, je dirais, pas loin de Figeac.
Alors du coup, quand éclate la Première Guerre mondiale, il est aux avant-postes hein, parce qu'il va savoir construire les hélices, il va pouvoir approvisionner et en faire de nombreuses.
C'est ça, c'est un spécialiste en fait de la fabrication à grand volume, forcément, avec les volumes de la guerre.
Et puis il travaille avec les pilotes.
Et il travaille avec les pilotes, il est toujours au contact avec les pilotes pour voir comment améliorer. Donc ça, ce sont des valeurs qu'il gardera dans l'entreprise et qu'on garde encore aujourd'hui. Mais effectivement, il fabrique des hélices et il se procure le bois, les planches en fait, à Figeac, il y a une scierie. Et en 1918, pendant la guerre, il dit « il y a tellement de volume ». Je vais acheter cette scierie et c'est comme ça qu'il s'implante en 1918. On a fêté d'ailleurs l'an dernier le centenaire de notre implantation à Figeac.
Alors, cette entreprise va continuer à prospérer. Puis en 1998, pour le coup, on fait un bond en avant. Elle est rachetée par un groupe américain, mais avec une idée, c'est que Ratier-Figeac reste à Figeac, reste en France totalement et dirigé d'ici. Vous arrivez un petit peu plus tard dans cette aventure, on est en 2015. Ça tombe quand même un peu sous le sens parce que dans la famille, manifestement, vous êtes tous passionnés d'aviation.
Effectivement, on est tombé dedans étant petit. Mon père a travaillé dès le début de l'aventure d'Airbus. J'ai un frère qui est pilote. Et donc moi, j'ai toujours été intéressé par l'aviation, mais aussi par la technique. Et donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique. J'ai travaillé sur différents systèmes. Et puis, j'étais aussi passionné par les Américains, la culture américaine et le mariage avec la culture française. Et donc, c'est le job idéal pour moi que de travailler au sein de cette entreprise, bien implantée chez nous à Figeac, dans le Lot, mais aussi utilisant toutes les qualités qu'un grand groupe américain peut nous amener, l'optimisme, la rigueur, la recherche de l'excellence, qui se marie très bien avec les valeurs de l'entreprise, de Paulin Ratier, qui est la fierté du travail bien fait, le travail en équipe, et puis bien sûr, être près des clients.
Que dit notre coach, Catherine ?
Alors, vous parliez justement du travail en équipe. J'ai vu que vous avez un code éthique à l'intérieur de l'entreprise et que vous faites beaucoup de choses pour vos salariés. En l'occurrence, vous avez des crèches d'entreprise. Est-ce que c'est vous qui, en France, mettez ça en avant ou est-ce que c'est les États-Unis qui vous demandent de le faire ? Parce que c'est intéressant.
Y a un peu des deux, mais au niveau de ce qu'on fait pour nos employés, on est vraiment très, très près de nos employés. On essaie d'améliorer les conditions de travail. Hein. L'usine, aujourd'hui, c'est...
Vous êtes nombreux, 1300 personnes, c'est ça ?
On est à peu près 1300 à Figeac, à peu près 1500 dans le monde. Rien que pour l'activité hélice, hein, dont j'ai la charge. Mais on est au sein d'un groupe qui s'appelle maintenant Collins Aerospace, mm-hmm. Qui a 70 000 personnes sur 300 sites partout dans le monde. Mais voilà, nous, effectivement, en fait, tout le monde essaye de satisfaire les besoins des employés. On est dans un territoire qui est très dynamique, au sein de la Mécanique Vallée, hein, qui rejoint des entreprises mécaniques entre Rodez, Figeac et Brive, donc au fin fond de notre Quercy, on va dire. Mais les gens qui travaillent chez nous sont très heureux. Quand ils viennent, ils ne sortent pas. On a très peu de turnover parce que les gens sont contents. On travaille dans un environnement.
Vous avez des générations
excellent.
Comme ça qui se suivent.
On a toujours des gens qui travaillent parce que leur père, leur mère, leur cousin, leur grand-père a travaillé. Voilà, on est bien
implanté. Dans le territoire.
Dans Figeac et dans le Lot.
Dites-moi, aujourd'hui, vous travaillez sur les hélices du futur.
Bien sûr.
C'est quoi l'hélice du futur ? C'est quelque chose de moins énergivore, notamment ?
Oui, absolument. On a toujours travaillé beaucoup sur l'innovation dans les hélices en particulier, hein, puisqu'on est passé du bois aux hélices en métal, depuis les années 90 aux hélices en composite. Et maintenant, on regarde les générations futures pour aider à avoir des avions plus puissants, mais qui sont moins bruyants, qui consomment moins, qui sont plus performants. Mais aussi, on travaille aussi avec les constructeurs pour travailler sur la propulsion hybride, donc plus électrique. Hein. On a un groupe d'ailleurs qui travaille sur un projet pour modifier un avion et remplacer un moteur de 2000 chevaux, si vous voulez, par un moteur de 1000 chevaux et l'équivalent avec un moteur électrique qui vont se combiner et transmettre l'énergie sur notre hélice. Et voilà, donc on travaille sur les évolutions qu'il faut pour ça.
Une des idées, c'est de permettre d'atterrir sur de plus petites pistes, de pouvoir redécoller aussi, c'est-à-dire de faire des bords à bord, finalement, de Rodez à Limoges, par exemple.
Oui, alors c'est peut-être un peu court, Rodez et Limoges, mais l'intérêt de l'aviation régionale en particulier, hein, mais ATR, qui est un constructeur à Toulouse, est un de nos plus gros clients et est à la pointe mondiale, hein, vraiment là-dessus. L'idée, c'est de connecter les gens et connecter les régions. Pour ça, on a besoin d'atterrir sur des pistes qui sont plus petites, parce que les villes et les agglomérations sont plus petites. Et pour ça, un avion à hélice est le plus efficace, consomme beaucoup moins de carburant.
De carburant.
Émet moins d'émissions, fait moins de bruit. On peut même se poser à London City Airport ou dans les petits aéroports près des villes. Et donc, il y a de très, très gros avantages à ces avions à hélice, qu'ils soient civils pour le transport régional ou bien militaires même pour les transports tactiques.
C'est Ratier-Figeac, 1904, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Jean-François Chanu d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Comment protéger le littoral ? Une start-up a trouvé la solution. Elle s'appelle Wave Bumper. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Il faut prendre de quoi noter parce que c'est la solution du jour. Et aujourd'hui, elle est de saison, Raphaël, on parle du littoral.
Oui, c'est une idée simple, ingénieuse, qui pourrait aider toutes les communes du littoral. Elisabeth, ça s'appelle Wave Bumper et c'est la solution.
Mais oui, 1000 communes du littoral sont exposées à un risque accru de submersion marine. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'élévation du niveau de la mer qui est causée par le réchauffement climatique. Ainsi, une solution est née, c'est Wave Bumper. C'est une protection capable de s'adapter à cette urbanisation littorale ainsi qu'à ces problèmes climatiques. Il s'agit d'une digue amovible, réutilisable, anti-vague, submersion. Bonjour Romain Chaperon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tout est parti après les tempêtes de 2014 qui ont ravagé les plages de Biarritz. C'est là où vous avez eu cette idée lumineuse.
Tout à fait. L'idée est née pendant la tempête Christine, au mois de mars 2014. J'ai vu le casino se faire envahir par les vagues, le casino de Biarritz, pour la deuxième fois dans le même hiver. Et là, je me suis dit qu'il y avait sans doute une solution pour éviter ça la prochaine fois, convaincu qu'il y aurait une prochaine fois.
Et donc, vous avez eu l'idée de créer ce dispositif anti-submersion. C'est quoi alors ? Il ressemble à quoi ce dispositif ?
Alors, tout part d'une courbe. En fait, l'idée, c'est de positionner une sorte de bouclier déflecteur.
En mer ?
Non, pas en mer, justement, sur la limite entre la mer et le bâti, et la terre. Donc on vient protéger un bâtiment ou une structure. On ne se positionne pas en mer.
Mais comment, avec quels matériaux ?
Alors ce sont des matériaux composites. On a fabriqué des prototypes au début, une courbe qu'il a fallu calculer pour créer le renvoi de la vague vers l'océan. Et l'idée est de venir, en prenant cette énergie-là, percuter la vague suivante et diminuer la puissance d'impact de la vague qui arrive derrière.
Donc vous avez dû, j'imagine, analyser le mouvement des vagues pour ça.
Oui, alors j'ai passé quelques années dans l'eau avant.
Mais c'est ça, parce que vous êtes surfeur.
Oui.
Et à la base, vous êtes spécialiste de la conception de planches de surf en bois.
Alors de surf en bois accompagné de matériaux composites.
Et donc ça vous a aidé, vous êtes inspiré.
Exactement.
Alors, vous l'avez testé sur les vagues à Biarritz, justement.
Alors on l'a testé sur les vagues à Biarritz, maintenant un petit peu plus loin, en Méditerranée, aux Caraïbes. Et à chaque fois, on a des profils de vagues différents. Donc, il faut s'adapter et on refait du sur-mesure et on calcule tout en permanence.
Oui, c'était ma question. Comment on fait justement ? Il faut systématiquement aller étudier pour l'endroit où on va positionner le dispositif. C'est à chaque fois quelque chose qui est modifié. Qu'est-ce que vous modifiez dans la structure ?
Alors, on modifie la courbe, la hauteur. Il faut analyser de combien va pouvoir monter le niveau de l'océan sur telle ou telle zone et la variation de la hauteur des vagues, de leur puissance. Et du coup, on calcule les puissances d'impact qui vont être générées sur les boucliers, sur le bâtiment. Et là, on réadapte la construction de la défense.
Catherine, la coach.
Est-ce que les assurances prennent ça en charge finalement ? Parce que mettre ça en face d'un casino, c'est limiter un risque.
C'est limiter un risque. Alors aujourd'hui, elles ne le prennent pas en charge. On n'a que 2 ans d'existence. Par contre, sur tout un tas de sujets, et notamment aux Caraïbes suite à l'ouragan Irma, on a des zones où les assurances ne veulent plus assurer. Et le fait de positionner du bumper devant, ils acceptent de reconduire le risque.
Et c'est permanent ou c'est amovible ? Une fois que vous l'avez
C'est amovible. C'est l'intérêt de la chose. Parce qu'on peut faire du permanent, ça s'appelle une digue.
Ouais.
On va faire de magnifiques blocs de béton en mer. Mais là, on sait qu'on dégrade l'environnement.
Ouais, c'est ça.
On modifie la courantologie, on modifie les fonds. Et en même temps, on accélère le phénomène d'érosion. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est plutôt à le limiter. Le fait d'être amovible, on ne dégrade rien, on disparaît juste après la tempête.
Vous vous adaptez à chaque fois en fonction de la trajectoire de la vague.
Tout à fait, on s'adapte au changement climatique pour mieux l'appréhender.
En quoi, de quoi est constitué ce dispositif, si on peut l'imager, quelle est la matière
La matière, c'est imaginer une coque de bateau, tout simplement, parce que ça va très bien dans l'eau.
C'est du plastique
C'est du matériau composite, la fibre de verre avec de la résine. Et c'est construit exactement comme une coque de bateau, comme une coque de voilier.
Qui finance? C'est le bâtiment qui cherche à être protégé? Vous avez des aides
Les aides aujourd'hui, pas énormément. Je pense qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place au niveau des collectivités, des départements, des régions, et je suis convaincu que ça va se faire. Autrement, ce sont dans un premier temps les collectivités, mais on a aussi des particuliers et surtout des professionnels du littoral. Quand vous avez un casino, un hôtel qui est dégradé, il faut plusieurs mois, c'est une perte d'activité énorme derrière. Donc les gens, aujourd'hui, comprennent et anticipent ça.
Vous avez noué un partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Parce que là, du coup, vous sortez de la France et ça va devenir...
On sort de la France, mais si vous voulez, le système, du fait d'être amovible, l'intérêt, c'est de pouvoir l'installer au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, il faut l'anticiper. Et l'anticiper, on a imaginé créer un nouveau système de prédiction qui soit calé par rapport aux résistances de nos digues. Et donc, on avait besoin de données satellites, de calculer des bathymétries, comprendre le fond de l'océan devant ces zones-là et d'avoir les données météo. Donc on travaille avec des données de Météo France, des données de l'ESA qui nous permettent d'anticiper et de créer une alerte.
Ça s'appelle Wave Bumper, ça fait 2 ans que ça existe. Merci Romain Chapon d'être venu nous en parler.
Avec plaisir.
Merci Catherine d'avoir été notre coach aujourd'hui. Nous, on se donne rendez-vous demain.
Je voudrais
qu'on précise une petite chose,
oui,
Anissa.
Les auditeurs sont très nombreux à appeler le 3921 et ils voudraient que vous redonniez le nom de la marque des maillots anti-UV, s'il vous plaît.
Ce sont les maillots de Virginie Fleuriel. Vous pouvez les trouver notamment sur son site internet.
N'hésitez pas, hein, 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute pour toutes vos questions. Merci Raphaël Duchemin et à demain à partir de 13h sur Europe 1 dans un instant. Comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses récits. C'est vous qui avez voté pour vos récits préférés toute cette semaine. Aujourd'hui, vous allez réécouter une très célèbre affaire criminelle, celle des Sœurs Papin. A tout de suite sur Europe 1.